Alors, aujourd'hui, nous arrivons à la fin de notre étude sur l'épître aux Galates. Il y a eu quelques dimanches entrecoupés, où on n'a pas parlé de Galates. Mais du coup, voilà, je vais faire un bref rappel de ce qu'on a vu jusqu'ici. On avait commencé, c'était moi qui avais commencé, en regardant ce que Paul disait par rapport au vrai évangile, en le comparant au faux évangile qu'annonçaient des faux enseignants. Avec Paul qui justifiait que oui, il était quelqu'un en qui on pouvait se confier et que son message aussi, on pouvait s'y confier. Mamie a continué en nous parlant de la justification par la foi seule, en opposition à la justification par la loi, où voilà, c'était ce message si important, ce message de dire que ce n'est pas en faisant. Ce n'est pas en suivant des règles, en suivant des choses de la loi, en étant circoncis. Ce n'était pas en faisant ces choses-là qu'on pouvait atteindre Dieu, mais au contraire, c'était par la foi seule, par le sacrifice de Christ. Michael nous a parlé de la liberté en opposition à l'esclavage, où du coup, c'était l'idée que... Voilà, on était libéré de quelque chose, ce n'était pas pour être sous l'esclavage de nouveau de la loi. Et la dernière fois, Matthieu nous a parlé des conséquences de la liberté. Si on était libre, c'était pour quelque chose. Et c'était libre pour faire quelque chose. Et comment faire, comment vivre cette liberté, c'était grâce au Saint-Esprit. Et maintenant, à la fin de Galates, Paul nous invite à réfléchir à une application pratique de notre liberté, le service les uns des autres. Et il va revenir du coup sur ces faux enseignants qui enseignaient qu'il fallait être circoncis pour être sauvé. Et un peu dans ce contexte de service, il va regarder quelle est leur motivation. Et voilà, tout comme pour les services, il faut qu'on se demande quelle est notre motivation. Et voilà, je vous invite à lire avec moi le Galates 6, mais on va commencer juste avec le dernier verset qu'on a vu la dernière fois, le verset 26 du chapitre 5, qui fait un peu le lien entre un chapitre qui nous dit comment utiliser notre liberté avec le Saint-Esprit, et voilà, qui fait le lien avec cette notion de service. Donc ce verset 26 nous dit « Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Et donc là, voilà, on a ce basculement où on va passer aux autres. Quelle est notre relation aux autres dans cette liberté? Et donc, continuons avec Galates 6. « Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. » Il n'y a pas la seconde 21 du coup. Alors, je suis en train de lire dans la seconde 21 qui ne correspond pas tout à fait à ce qui est affiché. Portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec les autres. Avec un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Et donc, on continuera après de lire le reste du passage. Mais du coup, voilà, intéressons-nous déjà là à ce que Paul nous invite à vivre dans le service. Et vous trouvez peut-être un peu particulier la façon dont il commence. Quand pense service, on pense plus au deuxième verset, porter les fardeaux les uns les autres. Là, c'est plus logique, on va dire, plus direct. Mais Paul, il va commencer avec quelque chose de plus spirituel. Il va partir sur reprendre quelqu'un qu'on voit dans l'erreur, quelqu'un qu'on voit en train de pécher. Et c'est vrai que c'est un service qu'on peut donner à quelqu'un. C'est quelque chose de difficile aussi à faire. Reprendre quelqu'un n'est pas quelque chose de naturel, pas quelque chose de facile. Personne n'aime confronter le péché, confronter quelqu'un qui est dans l'erreur. C'est beaucoup plus facile de laisser courir, potentiellement aussi de juger sans intervenir, de dire « Ah, ben du coup, il a bien ce qu'il mérite parce que, il est dans le péché. » Et voilà, c'est peut-être plus facile de vivre ça, mais du coup, quelle grâce que de faire à quelqu'un, le reprendre dans l'amour pour qu'il puisse revenir de ses erreurs. Et donc, là, Paul nous invite à, si quelqu'un est surpris dans une faute, si on découvre que quelqu'un est dans le péché, à le reprendre. Pas de le rendre public, pas de l'ébruiter, raconter à tout le monde dans l'église, « Ah, mais tu sais, lui, tu sais ce qu'il est en train de faire ?» Non, c'est pas ça qu'on est invité. Vous pensez peut-être à ce que Jésus dit dans Matthieu 18, où Jésus invite d'abord à aller seul avec cette personne, une personne qui est dans le péché, pour le reprendre. S'il ne t'écoute pas, d'y retourner avec deux ou trois, et enfin de le dire devant tous. Il y a une certaine progression. Ce qu'on voudrait et ce qu'on préférait, c'est quand on va trouver cette personne qui est dans le péché, qu'elle se repente. Et je pense que c'est important ce que dit Paul. Il nous invite à reprendre dans la douceur. Et on va dire, c'est peut-être là la partie la plus difficile, à garder cet amour, à garder cette douceur quand on reprend quelqu'un. Et voilà, puisqu'il faut trouver cet équilibre entre rejeter, dénoncer le péché, dénoncer des actions qui ne sont pas bonnes, une orientation de vie qui part dans un mauvais sens, tout en évitant d'accabler la personne, en évitant aussi d'accabler la personne quand elle se repent et de l'accepter de nouveau. Mais vous avez peut-être aussi remarqué que Paul s'adresse à des personnes en particulier dans ce premier verset. Puisqu'il dit, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le. Et on va y revenir après, mais il y a aussi un travail à faire sur soi avant de reprendre quelqu'un. Et Paul nous invite aussi à la fin à faire attention, de veiller sur soi-même, de peur de ne pas tomber nous-mêmes. Et on reviendra aussi sur la question du danger que ça peut représenter pour la personne qui reprend. Deuxième service que Paul nous invite à accomplir, c'est de porter les fardeaux les uns les autres. Et là, c'est, on va dire, quelque chose de plus naturel quand on parle de service. Aider quelqu'un, c'est aider à porter quelque chose qu'il ne peut pas porter. Alors, c'est vrai, mais déjà, c'est intéressant que Paul nous invite à porter les fardeaux les uns les autres. Il ne dit pas, ok, vous qui êtes forts, vous aidez ceux qui sont faibles à porter leurs fardeaux. C'est à sens unique, vous aidez, et c'est bon. Donc Paul nous invite à porter les fardeaux les uns les autres, et donc ça veut dire aussi pas seulement que Paul nous invite, à offrir son aide avoir cette compassion d'offrir son aide à nos frères et sœurs, mais il nous invite aussi à avoir l'humilité d'accepter l'aide qu'on nous propose. Et voilà, ces deux côtés ne sont pas nécessairement évidents pour nous. Le côté compassion, des fois on en manque. On se dit, voilà, à un moment, il faut que cette personne voilà, fasse un peu d'effort. Il faut qu'elle se sorte voilà, elle-même du trou. Mais de l'autre côté, on a aussi cet orgueil qui ne veut pas nous laisser accepter l'aide de nos frères et sœurs. Et Paul, voilà, il dit que porter les fardeaux, ce n'est pas rien. C'est accomplir la loi du Christ. Et c'est vrai que si c'est la loi du Christ, ce n'est pas quelque chose d'optionnel, c'est quelque chose qui est au cœur de son message. Et c'est au cœur des belles œuvres qu'il a préparées d'avance pour qu'on les accomplisse. Et Paul va continuer du coup au verset... voilà, à partir du verset 8, il va nous inviter à faire des œuvres pour le bien de tous. Et quand il nous dit de faire du bien, de faire des œuvres bonnes, comment est-ce qu'il défend, on va dire, ce qu'il nous invite à faire? Il nous dit que nos actes ont des conséquences. Il nous dit que celui qui sème pour sa nature propre, pour sa chair, eh ben, va récolter la ruine, la pourriture. Et au contraire, celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Et encore, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Et donc, voilà, on a cette idée que le service, ben, ça entre dans quelque chose, encore une fois, de spirituel. C'est suivre ce que l'esprit nous invite à faire. C'est ne pas agir pour notre propre chair, pour nos propres envies. Et voilà, dans le chapitre 5, on a vu toute une liste de péchés, toute une liste aussi de fruits de l'esprit. Et voilà, c'est un peu cette idée-là que Paul veut reprendre, l'idée que faire le bien, bah, c'est faire ce que l'esprit veut produire en nous. Mais dans tous les cas, il y a des conséquences. Nous récoltons ce que nous semons. Alors, là, on a vu trois, on va dire, domaines de service que Paul nous appelle à accomplir. On avait le service de reprendre avec douceur quelqu'un qui est dans le péché, le service de porter les fardeaux les uns les autres, et enfin, les œuvres pour le bien de tous. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Paul... il nous invite à réfléchir à notre rapport aux autres dans le service. D'abord, dans la question de reprendre les autres, il nous invite à réfléchir au danger pour nous-mêmes. Le danger pour nous-mêmes et le danger pour l'autre. On pense facilement peut-être au danger d'effaroucher, au danger de repousser les personnes, de la voir mal réagir. Et c'est souvent ça qui va nous empêcher d'aller de l'avant en se disant « Ouf, si je lui dis, qu'est-ce qu'il va penser ?» Mais on pense aussi peut-être au risque d'être hypocrite, d'être cette personne avec la poutre dans l'œil qui dit « Fais attention mon frère, tu as une écharpe dans la tienne. » Mais Jésus, qui nous a raconté cette image, il apporte aussi la solution. Il nous invite à enlever notre poutre avant d'aider à enlever l'écharpe de l'autre. Et donc, quand Paul nous invite à veiller sur nous-mêmes, de peur de ne tomber, je pense que c'est une bonne chose, quand on voit le péché de l'autre, déjà de s'examiner soi-même. Et de dire, voilà, où est-ce que moi j'en suis avec Dieu? Où est-ce que j'en suis, notamment sur ce sujet-là? Et peut-être que si j'étais affecté par ce péché dans le passé, si je vois un frère tomber là où moi aussi je suis tombé dans le passé, peut-être qu'il faut que je fasse attention. Puisque oui, j'ai sûrement mon expérience à porter, à dire, Voilà. Je suis tombé comme toi, mon frère, mais relève-toi. Mais peut-être que ce péché aussi est toujours là à guetter dans ma vie. Et du coup, il faut que je fasse attention. Attention à ne pas retomber là où j'étais tombé avant. Et au final, peut-être ce danger de jugement qu'il y a dans quand on voit le péché de l'autre et qu'on veut le reprendre, voilà, c'est peut-être là qu'il faut s'examiner pour justement dire « moi aussi je suis faible, moi aussi je suis fragile ». Et donc, je ne suis pas meilleur que lui, ce frère, cette sœur qui est dans le péché. Mais Paul, voilà, face à ce danger de jugement, il va nous inviter à réfléchir aussi plus globalement. Il va nous inviter à réfléchir à comment on se compare à l'autre. Et voilà, je pense que vous, comme moi, c'est très difficile de ne pas se comparer aux autres. C'est quelque chose de très humain, et puisqu'on se définit par rapport à la moyenne, on se définit par rapport à la tête du groupe, on se définit par rapport au groupe auquel on appartient. On pense peut-être voilà, aux examens, c'est si on a 12 ou si on a 6, on va se dire « Ah, comment est-ce que je suis par rapport au groupe ?» Si la moyenne c'est 6, c'est que moi j'ai 7, ah, c'est bien. Alors que si la moyenne c'est 19 et que j'ai 17, oh, j'ai pas réussi mon examen. Mais voilà, est-ce que c'est la comparaison que Dieu nous invite à faire? Non. Ce qui est important, c'est de se regarder par rapport à nous-mêmes et pas par rapport aux autres. Paul nous dit, si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Ça, c'est d'un côté, est-ce qu'on a une vision réaliste de qui nous sommes? Et ensuite, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre. Il y a quelques mois, l'année dernière, j'avais fait un message sur Romains 12, où Paul parlait des différents membres du corps qui ont des rôles différents, des statuts différents, mais qui avaient cette même valeur aux yeux de Dieu. Et voilà, c'est un peu cette idée-là qu'il reprend. On n'est pas invité à se comparer par rapport aux autres, mais simplement à regarder est-ce que moi, j'accomplis ce que Dieu m'a demandé de faire. Est-ce que j'utilise les dons que Dieu m'a donnés? Et au final, voilà, cette fierté qu'on peut avoir, ce n'est pas par rapport aux autres, parce qu'on est meilleur que ce frère, meilleur que cette sœur, meilleur que les personnes qui ne croient pas, mais seulement par rapport à est-ce que j'accomplis ce que Dieu met dans mon cœur. Et du coup, si nous avons cette fierté, Paul nous dit, on peut être fier de notre œuvre. Est-ce que ce n'est pas revenir dans un certain légalisme? Mais nous pouvons être fiers dans cette œuvre parce que ce n'est pas nous qui la produisons, mais c'est Dieu qui la produit. C'est l'Esprit qui travaille en nous. C'est l'Esprit qui produit en nous ce fruit de l'Esprit. Ces fruits, ces beaux fruits. Et Paul nous invite à réfléchir dans le verset 5 que chacun portera sa propre responsabilité, ou dans d'autres versions, sa propre charge. Alors, on peut se dire, portez-vous les fardeaux les uns les autres, et maintenant on a notre propre charge à porter. Mais le fardeau, c'est ce qu'on ne peut pas porter seul, et la charge, c'est simplement notre responsabilité. Que nous ayons notre fierté dans le Seigneur qui produit en nous des bons fruits. Donc, nous avons cette comparaison à l'autre qui fait suite à cette reprise de l'autre qui n'est pas seulement facile. Mais Paul nous invite aussi à quelque chose d'un peu étrange. Et bon, j'espère que vous écoutez bien puisque je vous rappelle que là, c'est moi qui suis en train de vous enseigner. C'est le verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Est-ce que vous vous sentez convaincu là dans votre cœur? Alors, c'est un verset voilà, qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. On se dit, non mais pourquoi est-ce que ça vient là? Mais je pense que ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que ça fait un peu suite à ces notions d'entraide, de fardeau qu'on partage. On a l'enseignant qui apporte quelque chose, qui partage quelque chose de la part du Seigneur. Et je pense que, voilà, dans le cas général, voilà, on n'a pas trop de questions à se poser. Mais voilà, je vous propose un peu une situation. On pourrait imaginer un invité qui vient apporter un message. Il y a un repas fraternel prévu après. Donc, l'église descend, on va tous manger ensemble. Et quand ce pasteur qui vient apporter le message descend avec l'église, on lui dit « Ben, est-ce que vous avez emmené à partager ?»« Ben, vous n'avez rien emmené ?» Ben, voilà, ce serait, je pense, assez bizarre de faire ça. Et je pense que c'est ce genre de pensée que Paul nous invite à chasser. Ça nous rappelle peut-être aussi un peu 1 Corinthiens 11, où Paul dit, voilà, ce qui n'est pas normal, c'est que vous arrivez à la scène, et puis il y a les riches qui mangent tous leurs plats, leur entrée, plat, dessert, et puis tu as les pauvres qui n'ont rien à manger, et ensuite on dit, on est en communion. Je pense que c'est un peu la même idée là, il ne faut pas laisser l'enseignant dans la rue, il ne faut pas être injuste, il faut l'inviter à partager aussi ce que l'Église a. Et voilà, Paul continue en disant, en terminant cette pensée, en disant « on ne se moque pas de Dieu ». Alors c'est aussi pour introduire cette question des conséquences de nos actes. Mais si on reçoit sans donner, on est hypocrite. Et voilà, on ne se moque pas de Dieu, ne faisons pas comme si on était en communion quand on ne partage pas. Et donc, voilà, Paul nous a parlé du service, nous a parlé de notre rapport à l'autre dans le service, et ensuite il va nous parler de la motivation qu'on retrouve aussi dans le service. Et donc je vous propose de terminer la lecture de Galates avec moi. On va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Voyez avec quelles grosses lettres je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se faire bien voir par les hommes vous obligent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être eux-mêmes persécutés pour la croix de Christ. En effet, les circoncis eux-mêmes ne respectent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de pouvoir tirer fierté de votre corps. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Paix et grâce sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, ne fasse de peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Et donc Paul va une dernière fois, dans Galates, s'attaquer aux motivations des faux enseignants qui prêchent le retour à la loi. Il va dire que ce qui est important, c'est la circoncision. Que ce qui est important, c'est de suivre la loi. Et ensuite, on sera accepté de Dieu. Mais quelles sont les motivations derrière? Est-ce que les motivations de ces faux enseignants sont l'amour, sont l'envie de servir leurs frères et sœurs de Galatie? Non, puisqu'ils apportent un fardeau qui est trop lourd à porter. Encore plus, ce fardeau qui est trop lourd à porter, ils ne vont même pas aider à le porter. Ils vont simplement laisser ce fardeau sur les personnes qui les écoutent. De plus, ils agissent par fierté, un peu par envie de dire « ce sont nos disciples, ils écoutent ce que nous on leur dit, ils nous suivent ». Alors, c'est peut-être un peu aussi l'idée de dire « ils sont comme nous ». Mais au final, ce que Paul veut nous rappeler, c'est que la fierté n'est pas dans ce qu'on fait, mais la fierté est dans la croix de Jésus. Et dans ce que Jésus a fait, ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est Christ qui fait en nous. Et Paul dit qu'il est crucifié au monde. Et nous aussi, nous sommes crucifiés au monde. De notre point de vue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde perd de son attrait, que nous ne sommes plus attachés comme avant aux choses du monde, à ce que le monde a à nous offrir, à, on va dire, ce que le monde essaye de nous vendre comme les raisons de vivre, le succès, l'argent, les possessions. Mais aussi, on a un peu la contraposée de cette phrase, nous sommes crucifiés au monde. Non. Du coup, le monde est crucifié pour nous, mais nous aussi, nous sommes crucifiés au monde. Et peut-être là, c'est un peu moins sympa de savoir que le monde ne nous accepte pas parce que nous appartenons à Christ. Paul va parle de ses persécutions, des souffrances qu'il a vécues pour la croix de Christ. Et c'est aussi une réalité pour nous que si nous sommes crucifiés au monde, si nous sommes morts pour le monde, ben, le monde ne nous aimera pas. Mais au final, ce qui compte, c'est que nous soyons des nouvelles créatures. Ce n'est pas la circoncision, ce n'est pas l'incirconcision, ce n'est pas, on va dire, les règles alimentaires qu'on suivrait. Ce qui importe, c'est que, comme Paul nous raconte dans Romains 6, c'est que nous soyons une nouvelle création. Une nouvelle création en Christ. Alors, en conclusion, Paul avait commencé son épître de façon très dure avec les Galates. Il avait vu une dérive doctrinale dangereuse, une dérive doctrinale qui mettait en cause même la foi des Galates, et on pourrait dire il est rentré dans le lard. Il a commencé à remettre, on va dire, les points sur les i, à dire que le vrai évangile, c'est la liberté et non pas un nouveau légalisme. Il a remontré les bases théologiques en rappelant tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament avec Abraham qui montre montre que nous vivons dans la liberté et comment nous pouvons vivre dans la liberté. Que nous pouvons vivre une vie par l'Esprit qui nous transforme. Et ce que je voudrais vous inviter ce matin, c'est de ne pas rester sur une compréhension intellectuelle de la justification par la foi. De dire, oui, c'est bon, on a compris, c'est pas les œuvres, c'est la foi. Ouais. Alors, c'est bien de l'avoir compris, mais c'est bien aussi de le vivre. De le vivre avec l'esprit, de le vivre en vivant ces belles œuvres que l'Esprit veut produire en nous, mais de ne pas le vivre comme une obligation. Ne sortez pas ce matin en disant « Bon, d'accord, ma liste de choses à faire s'est allongée. » Non comme un acte nécessaire pour obtenir l'approbation de Dieu. Ne sortez pas en disant « Oh là là, Dieu, je ne suis vraiment pas au top, il ne doit pas être fan de moi ces temps-ci. » Non. Agissons comme un acte de reconnaissance à Dieu, qui nous a tout donné et qui veut aussi nous donner ses œuvres. Servons-nous les uns les autres, servons-nous les frères et sœurs. Et comme dit Paul, c'est là la loi de Christ. Je vous invite à prier ensemble.